francesynthèse.com.
Voilà, je suis Jacqueline Maubourguet de Savigny-sur-Orge, une très fidèle auditrice de votre émission. Je voulais signaler l'anniversaire d'un triste assassinat en Amérique d'Ethel et Julius Rosenberg le 19 juin 1953. Nous avons été des millions à protester contre cet assassinat monstrueux ordonné par Eisenhower. Je voudrais votre émission que j'aime tant, peut-être quelques mots pour signaler. Nous avons été des millions à défendre l'assassinat, l'électrocution d'Ethel et Julius Rosenberg le 19 juin 1953 par Eisenhower. C'est un crime que vous pouvez dénoncer. Il y a eu une chanson de Billie Holiday qui a dénoncé ce crime monstrueux d'Eisenhower. Voilà, à bientôt.
Bonjour. Concernant donc la mise au travail obligatoire des allocataires du RSA, le gouvernement ne tient-il pas un double langage, faisant croire qu'il va mettre au travail les allocataires du RSA, sous-entendu tous des feignants, mais en fait, il est dans l'incapacité de proposer de vrais emplois à temps plein rémunérateurs. N'y a-t-il pas là la reconnaissance par le gouvernement de son incapacité à régler le problème du chômage en France ? Incapacité à proposer pour tous un emploi normal, à temps plein, rémunérateur. N'est-ce pas de l'aveu que pour les précaires, 5 à 10 heures de travail devraient leur suffire ? Nous voulons des emplois à temps plein, suffisamment rémunérés pour vivre convenablement et élever nos enfants avec respect et dignité de leur personne. Nous n'avons que faire de l'aumône. Merci.
Alors ce matin, il y avait Marine Le Pen était invitée de France Inter. Alors d'habitude, je supporte pas Marine Le Pen. Mais là, ce matin, elle a été très bien. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a eu le courage de dénoncer les riches parasites, les profiteurs de la société, c'est-à-dire les bénéficiaires du RSA. Et c'était bien de l'avoir dit parce que moi, ça m'a frappé, là, ce qu'elle a dit, je l'ai souvent observé. Quand on passe près des cités, par exemple à Bordeaux, là, si on va aux Aubiers ou les cités de Lormont, de Senon, qu'est-ce qu'on voit sur les parkings? On voit que des Ferrari et des Mercedes. Ça, c'est incroyable, quoi. On se demande qui achète les Ferrari et les Mercedes. C'est les bénéficiaires du RSA. Même que des fois, moi, il m'arrive de rêver de toucher le RSA parce que, putain, ça doit douiller le RSA pour pouvoir s'acheter des bagnoles comme ça. Pourtant, on dit que c'est 460 euros par mois pour une personne seule. Oh, ça doit pas être vrai, parce que 460 euros par mois, je vois pas comment on pourrait s'acheter une Ferrari ou une Mercedes. Mais en tout cas, ça, c'est vrai. Partout où il y a des pauvres, on voit que des grosses bagnoles. Alors, c'était bien que quelqu'un le dénonce, ça. Ça, c'est très important. Alors qu'il y a des gens, comme elle a dit, qui se sacrifient au travail. Voilà, le travail, c'est un truc, on y va pour se sacrifier. Alors c'est pour ça qu'il faut supprimer aussi les jours fériés, pour que ce soit encore plus difficile. Et puis il faut supprimer le code du travail, parce qu'il faut que les gens y souffrent. Et alors ce matin, j'ai compris pourquoi il y a des gens qui votent Front National ou UMP. C'est pas par ignorance, comme on dit, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe en politique. C'est par masochisme. En fait, ce que les gens devraient se faire soigner, c'est pour leur masochisme, quoi. Voilà.
Voilà le point de vue de Claude, notre auditeur préféré. C'est le chouchou des auditeurs de la base du J'y suis. Il faut quand même bien dire les choses, d'autant que là, il rend un hommage appuyé à Marine Le Pen. Aujourd'hui, comme promis, on va à la mine, on descend à la mine. 1948, une des plus grandes grèves de l'histoire française, on peut dire, en tous les cas, de l'histoire des mineurs. Un siècle, la mine, 1880-1980. Assez peu de grèves, de grandes grèves dans le monde de la mine en France, mais des grèves héroïques, celle de 1941 contre Vichy et l'occupant, celle de 1947, celle de 1948 que nous allons évoquer, celle de 1963, etc. Donc vous avez compris, des pages aujourd'hui, une grande page de notre histoire sociale. Et pourquoi donc ? Parce que le 10 mars dernier, le 10 mars 2011, la Cour d'appel de Versailles a donné raison à 17 mineurs qui avaient été licenciés en représailles de la grève de 1948. 63 ans de lutte aboutissaient ce jour-là à la reconnaissance du droit de ces mineurs. Ils furent près de 3000 à être licenciés pour fait de grève, ce qui est illégal, et il a fallu 63 ans pour que leur dignité soit reconnue. Mais c'est pas fini, parce que l'État a fait un pourvoi en cassation. Mais en tous les cas, c'est une victoire très importante tout de même que celle de mars dernier. C'est cette histoire qu'on va évoquer, cette histoire juridique, cette histoire du droit, cette histoire de l'entêtement, de la ténacité des mineurs, et puis aussi cette page peu ou méconnue de notre histoire sociale, la grève de 1948. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et les AMG. C'est pour vous informer que le prochain Café Repère de Saint-Louis à La Réunion se tiendra exceptionnellement le mercredi 15 juin à 20h, au lieu de notre habituel rendez-vous du mardi. Et oui, il y a les musiciens du Sakifo Festival qui se produisent à Lillo. Donc nous reculons d'une journée, le mercredi 15 juin donc à 20h. Le thème abordé sera les logiciels libres ou comment résister à l'empire Microsoft. Salut, c'est Cathy de La Réunion. Ciao.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. C'est pour signaler que Acrimed, donc Action Critique Média, donc invite un copain à vous et quelqu'un que vous avez déjà présenté le jeudi 16 juin à 19h à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, métro République. Donc cet invité, c'est Denis Robert, sur le sujet du journalisme d'investigation, en particulier justement les variétés, les modalités, les difficultés de ce journalisme d'investigation que vous connaissez bien, vous l'équipe. Denis Robert, donc sera l'invité du jeudi d'Acrimed, jeudi 16 juin à 19h à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue Château d'Eau, métro République. À très bientôt et félicitations à toute l'équipe. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe. Là, je viens d'entendre l'émission sur André Gorz, là, qui est très intéressante. Vous cherchez une filiation dans l'écologie politique d'aujourd'hui des idées d'André Gorz. Il me semble qu'on les retrouve dans le journal La Décroissance. Et d'ailleurs, André Gorz avait donné son autorisation en décembre 2006 pour que soit publié un article qu'il avait écrit dans un de ses livres. Donc c'est un peu bizarre cet évitement qu'il y a à parler de la décroissance quand même. Donc si André Gorz était ignoré, il peut en être de même de la décroissance aujourd'hui grâce aux médias dominants. Salut.
Bonjour à tous les AMG et à toute l'équipe de la Bassie, j'y suis. J'entendais M. de Villepin parler de M. Chirac tout à l'heure en disant qu'il a le droit au repos, il a le droit à l'humour, il a le droit à la liberté, certes. Mais il a aussi un autre droit, c'est le droit d'être jugé par la justice de son pays. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.
Salut Daniel, bonjour à tous les AMG et spécialement à ceux du Pays d'Aix. Nous nous retrouverons ce mardi 14 juin au restaurant Le Coton Rouge, 4 chemins du Coton Rouge. Nous accueillerons une femme atypique, bien vivante. Il s'agit de Nina Korjiniviskaya, intellectuelle franco-russe, docteur en lettres et arts plastiques, auteur d'un livre écrit en russe sur ces drôles de français. Elle s'entretiendra avec nous de la Russie d'hier et de celle d'aujourd'hui, et nous pourrons lui poser toutes les questions que nous voudrons. Venez nombreux, au revoir.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre dû.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés. Hein, et ils ont contre eux l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Hein. Non mais, le rapport des forces est totalement disproportionné. Quoi.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre. Hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous, c'est un combat désespéré, quoi, je dirais.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. La grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from...
Alors voilà, il est 9h du matin et on vient d'arriver à Lens, en plein cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la ville où se concentrait autrefois toute l'activité liée à la mine. Là, je me trouve sur le parvis de la gare. Tout est calme, il y a peu de passants. En face de nous, de l'autre côté de la rue, il y a l'Hôtel de France. Un hôtel un peu vieillot, tout en briques rouges, avec des pignons à pas de moineau qui font comme des escaliers qui montent vers le ciel, qui sont très typiques de l'architecture flamande du nord de la France. Si on se retourne de l'autre côté, il y a la gare de Lens. Et derrière la gare, derrière les voies de chemin de fer, on aperçoit toute une chaîne de terris qui se profile à l'horizon. Ces masses noires de résidus de charbon. La plupart de ces terris sont aujourd'hui entièrement recouverts de végétation. On voit même des arbres qui ont poussé par-ci, par-là. Du coup, le paysage est très verdoyant. Et nous, on est venu justement au pied des terris pour rencontrer d'anciens travailleurs des houillères nationales. Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, ont été licenciés voici plus de 60 ans pour avoir participé aux grandes grèves de 1948. Des grèves très dures, qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque et qui ont été réprimées dans le sang. Suite à ces grèves, 3000 mineurs avaient été licenciés, emprisonnés, expulsés de leur logement et bannis des houillères nationales. Et voici quelques mois à peine, la cour d'appel de Versailles vient de rétablir 17 de ces anciens mineurs dans leurs droits en reconnaissant le caractère illégal de ces licenciements. Alors voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, dans cette région lensoise, pour rencontrer Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, et évoquer avec eux cette formidable lutte et cette formidable victoire 60 ans après.
Victoire, victoire, exclamation ou victoire, interrogation? Victoire, exclamation. On vient de dire, Charlotte vient de dire, 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles reconnaît enfin l'illégalité et l'illégitimité de ces licenciements suite à cette grève de 1948. La grève est un droit constitutionnel. Ils avaient été 3000 à être licenciés pour fait de grève. Donc, qu'ils sont enfin rétablis dans leurs droits et indemnisés. Victoire, victoire des 17 qui avaient des 17 mineurs ou de leurs ayants droit, qui, avec 4 avocats courageux, ont obtenu cette reconnaissance. Victoire, exclamation, au bout de 63 ans et des années de procédure. Exclamation. Mais, il y a quelques jours, fin mai, le 23 mai, l'État, puisque les charbonnages maintenant sont sous la responsabilité de l'État, l'État a fait un pourvoi en cassation, c'est-à-dire que Madame Lagarde, qui est si empressée à indemniser ce pauvre monsieur Tapie de quelques 45 millions d'euros, eh bien là, a demandé un pourvoi en cassation pour l'indemnisation et la reconnaissance de ces mineurs. Donc, victoire avec point d'interrogation. Mais à tous les coups, victoire sur l'oubli, victoire sur le mépris, victoire symbolique et hommage à la mémoire de ces mineurs qui se sont battus à l'époque en 1948 comme ils l'avaient fait en 1947, en 1941 durant la guerre et comme ils le feront en 1963. Une grève, celle-là, victorieuse, forte de celle de 1948. Vous avez compris, c'est des pages d'histoire sociale qu'on va évoquer, évidemment, avec ceux qui en ont été les protagonistes, les témoins et les acteurs, et qui ont chanté dans les prisons où ils furent enfermés. Certains délégués syndicaux furent enfermés en prison. Ça a été une répression d'une violence inouïe que cette grève de 1948. Le ministre de l'Intérieur, un certain Jules Moc, avait fait venir 60 000 CRS et militaires contre ces 15 000 mineurs en grève. Et donc, lorsqu'ils furent enfermés en prison, ils chantaient une chanson qui disait « Révoltés de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève. Alors ils ont dit oui, leurs droits étaient bien légitimes, inscrits dans la Constitution. Les travailleurs des champs, des villes ont dit mineurs, oui, vous avez raison. » C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
De misère, par milliers unis dans les grands puits. Les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Leurs droits étaient bien légitimes, inscrits dans la Constitution. Les travailleurs des champs, des villes ont dit mineurs, oui, vous avez raison. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tout suit, magnifique de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tout. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Mais un jour, des troupes mercenaires ont fait une ignoble répression. Assassins, ils ont tué vos frères en jetant des centaines en prison. Oh, vous, parjure couvert de honte, aux mains rougies du sang français, vous traînerez jusqu'à la tombe l'ignominie de vos tristes forfaits.
Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante.
monsieur Amigo. Vous habitez ici à Méricourt depuis longtemps?
Depuis 68, je crois. Ma papa va vous le dire parce que moi j'ai une mémoire courte. Moi j'étais mineur, j'étais pour Méricourt. Je suis venu rester à Méricourt après. Je suis d'un Aliétaire.
D'où?
Un Aliétaire. Comme maintenant c'est à Beaumont. Allez-y, rentrez.
Oh, bonjour madame.
Voilà, Daniel Amigo, l'un de ces mineurs qui a porté plainte et qui fait partie donc de ces victorieux et aussi qui porte cette mémoire de la mine et de cette lutte de 1948. Après la guerre, c'est relever les manches et creuser pour le charbon. C'était l'appel du général de Gaulle, mais aussi du Parti communiste, de Maurice Thorez. Il fallait que la France ait toute son énergie et toute son indépendance énergétique pour se relever. Alors, mineurs, relevez vos manches et creusez le charbon. Et ces mineurs l'ont fait, se sont crevés la paillasse par patriotisme, pour relever le pays. Ils étaient assez héroïques, ils étaient vus d'une façon, c'était un peu les héros de cette époque. Mais le vent a tourné en 1947, changement de gouvernement, changement de ton, et changement aussi de salaire, changement d'avantages sociaux, jusqu'à ce que les mineurs se mettent en grève, se lancent à l'appel de la CGT dans une grève, en octobre donc 48, et cette grève a été très 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 durement réprimée, on va nous le raconter. Pourquoi ? Parce que c'était le début de la guerre froide, c'était le début de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, et il y avait cet anticommunisme qui allait se développer, et ce soupçon et cette accusation de communisme, qui était que cette grève, derrière cette grève, il y avait la main de Moscou. Ces grévistes étaient les ennemis de l'intérieur qui préparaient l'arrivée des soviétiques en France. Bref, il fallait s'en défendre, il fallait mobiliser les troupes et toutes les troupes contre ces gens-là. Pour la plupart, si certains, indéniablement, de ces grévistes rêvaient du grand soir et d'une fin du capitalisme, sans doute, mais pour la plupart, évidemment, ils luttaient tout simplement pour leurs droits et pour leur pain, et Daniel Amigo en faisait partie.
Là, vous voyez, on a la lettre, c'est la lettre des avocats. J'ai la très grande joie de vous annoncer que la Cour d'appel de Versailles nous a donné raison par un arrêt du 10 mars 2011 que vous trouverez 6 juin en copie. Alors, la Cour a donc estimé que le licenciement intervenu pour fait de grève était nul car discriminatoire. Elle a octroyé la somme de 30 000 euros à chaque mineur ou famille à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme pour les frais d'avocat. Voilà.
C'est bien, puis ça dure trop longtemps. On reste à 7.
Il n'y a plus que 7.
Alors, plus les veuves.
Ouais, mais des mineurs, il y en a 7. Et chaque côté, il ne va plus en rester. Hein. Alors, c'est bien, puis c'est pas bien, puis c'est tout. Hein. Nous, c'est des ouvriers. Vous savez, c'est la même basse classe, c'est tout. Bon, on était mineurs, on a fait grève pour notre pain. Et après, nous a foutu les flics et puis l'armée tout dans la cité, là, avec les mitraillettes et compagnie. Hein.
Tout dans les faire vitres. Retravailler avec mitraillettes.
Ils disaient que nous, on empêchait les gens d'aller travailler. Il n'y avait personne qui voulait travailler. Hein. La grève, elle était juste. Hein. On réclamait notre dû. Et on jouait aux cartes au soir, vous savez. On ne cherchait pas la bagarre, je vous dis, on jouait aux cartes. Dans la journée, je jouais au boule, dans la cour d'une mine, et nous, au soir, on jouait à carte, on faisait grève, tout le temps. Alors, quand on est au piqué de grève, automatiquement, il n'y a personne qui rentre. Mineur, il ne va pas rentrer. Mais nous, on n'a pas cherché. Qu'est-ce que vous allez faire quand des gens qui ont des mitraillettes?
Alors, vous, à l'époque, en 48, vous aviez quel âge?
21 ans. Alors, moi, j'étais au piqué de grève, et puis, je rentre chez moi. On me dit, ben, les gendarmes, ils sont venus, il faudrait que tu te présentes devant la gendarmerie. Moi, je n'ai rien fait de mal. Je suis parti de la gendarmerie, coiffé.
Prison.
Alors, travail, liberté de travail, et puis patati, patata. Et ils m'ont embarqué à Béthune. J'ai fait 2 mois de prison à Béthune. J'ai fait appel, j'ai gagné un de plus, 3 mois. Et en plus, 6000 francs d'amende à l'époque. Le papier est encore là. Hein.
6000 francs d'amende.
6000 francs, ça représentait combien par rapport à votre salaire ?
Compte, hein,
48.
Ça faisait une somme, hein. Je faisais au moins 5, 6 salaires de mois. Ouais.
Il s'était payé à la quinzaine, mettons une dizaine de quinzaines.
Ouais. Alors plus de travail, plus rien, pour lui payer. Heureusement, je dois vous dire une chose. Nous, j'ai eu un journal qui nous a payé la moitié de la somme.
C'était quel journal ?
Liberté. Et depuis, pourtant je ne suis pas carté sur aucun parti, mais j'ai pris toujours Liberté chez moi.
Liberté, c'est le journal du Parti communiste ?
De cette région, hein. Je dirais que dans le Nord et Pas-de-Calais.
Et eux, ils vous ont aidé à payer vos amendes ?
Ils l'ont payé tout de suite.
Oui.
Quand j'étais libéré, il a fallu que je paye l'amende. Hein. 6000 à l'époque. Pour rien fait. Ils arrêtaient tout le monde, on était dans les prisons. On était à 10, 12 ans d'une cellule. Il y avait un monde, hein. Ouais. Tous les cases étaient pleines, il n'y avait plus de place. Alors il y avait un lit, en principe dans une cellule il y a un ou deux lits. Alors celui qui avait le lit c'était le plus vieux, puis tout le reste tout couché par terre. On couchait par terre, hein. On était maltraités comme des bêtes, puis c'est tout. Hein. Puis ça chantait dans la nuit, là, on aurait du travail. Puis les mineurs avaient des anciennes chansons, c'était des révolutionnaires. Là. Le temps des cerises et tous les bazars, toutes les chansons de révolutionnaires, hein, eux savaient tout. Moi j'étais jeune, je vous dis j'avais 21 ans. Alors j'écoutais, puis c'est tout. Hein. Dans la nuit, ça faisait lugubre. Hein. Et les gens du dehors, ils venaient écouter. Hein. Ils venaient autour de la prison écouter.
Ça, c'est quoi ?
L'extrait du registre d'écrou. Comme quoi il a été en prison. Alors, c'est daté le 18-11-48 jusqu'au 18-2-49. Alors, là-dessus, c'est marqué. La cour d'appel de Douai entrave à la liberté du travail et au bon fonctionnement des houillères nationales. Alors, peine de 3 mois de prison et 6 000 francs d'amende.
Vous avez été nombreux comme ça à être licencié, vous, où vous travaillez ?
Il y en a deux. Lui, il a été repris, mais moi, je ne l'ai pas toujours pris. Dans le fond, je me plaisais bien, et je suis encore là, parce qu'ils sont tous partis. Il ne reste plus que des veufs. Moi, je n'ai pas travaillé beaucoup, j'ai travaillé 6 ans. J'ai fini ma carrière à l'aide. Mais une dame, ils avaient 40 ans, et puis plus, et bien, vous savez, ceux-là, il y a longtemps qu'ils sont morts, puis ils n'ont pas eu rien. Ils ont traîné la misère, pas de boulot. Ils avaient l'ordre de ne pas les embaucher, hein. Même les entreprises.
Les usines privées et tout.
Pas vrai, il n'y a pas de boulot, puis c'est tout. Plus de maison, plus rien. Attention, c'est mon frère qui m'a hébergé. Hein.
Plus de couverture sociale.
Plus rien du tout. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait grève. Pour défendre mon pain, puis tout, ma tartine, comme on dit à l'époque.
Mémoire de la grève de 1948 dans les houillères, on a entendu, c'était pas seulement dans le bassin minier de Lens, c'était aussi dans d'autres lieux de mines en France. Mais ce qui est intéressant, c'est la personnalité probablement de Jules Mock, le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était quelqu'un qui avait fait partie du Front Populaire, qui avait dénoncé les accords Hitler-Staline, qui n'avait pas voté favorablement lorsqu'il était député envers Pétain, un homme qui avait été dans la résistance. Donc c'était plutôt un homme de gauche, droit, bien, etc. Mais lorsqu'il est ministre de l'Intérieur en 1948, il est gagné par cette idéologie qui s'installe très fortement dans le pays et dans la classe politique, qui est la lutte contre le communisme et tout ce qui peut de près ou de loin être soupçonné d'un lien avec l'URSS, ce qui explique probablement la grand-peur de la classe dominante en France et la violence invraisemblable de cette répression qui consiste en infraction totale vis-à-vis de la loi à licencier, à faire licencier près de 3000 mineurs.
Et vous, vous êtes rentré à la mine à quel âge ?
À 14 ans. Mon père était déporté pendant la guerre. Mon père a été déporté à 8 en Belgique. Pour faire grève aussi. En 41, c'était la grève des mineurs avec les Allemands. Hein. Ben, lui, il a été déporté à 8 en Belgique. Et il est revenu 3 ans après. Alors, comme j'étais le plus vieux de la maison, ben, j'ai parti à la mine. Pour élever la famille, les 3 frères. La mine, c'est que vous commencez au triage. Vous savez, le charbon, il est sur une trémie, puis vous enlevez les cailloux. Et après, on vous fait descendre au fond, comme galibot. Il faut vous rouler les barreaux, vous apporter le bois, vous donner un coup de main aux ouvriers. Et après, normalement, à l'âge que j'avais, je faisais un stage pour être ouvrier. Alors, j'étais à la greffe et j'étais fini. Quoi. De 1944 à 1948, on a donné du charbon, on a travaillé jour et nuit, même le dimanche et compagnie, pour soi-disant remonter la France. Mais eux, ils nous ont pas remonté, ils nous ont cassé par terre. De 44 à 48, c'était la bataille du charbon. Oh là là, j'allais y aller, la manœuvre. Les ouvriers étaient cinglés. On était fous. On travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait tous les jours. Alors, le dimanche, un jeune homme, il voulait pas travailler le dimanche, hein, rendez compte. Ah, c'était terrible, hein. Vous savez, dans le temps, on voyait que ça, on voyait rien d'autre, mais tout le monde allait travailler à la mine. Hein. Et notre frère était mineur comme moi. Il a été à la mort. Tout a tombé sur lui.
La mine s'est effondrée ?
La voûte minière s'est effondrée.
Et sa compagne est mort. Je lui dis, mais pas moi. Ah ouais. Parce que la mine, c'est ça. Hein. Le charbon, il est enlevé. Il y a un toit où vous mettez des bois. Et les bois, ils pètent, tic, tic, tic. On a remis un autre en dessous, puis tout, hein. Puis c'est dangereux, mais vous y pensez pas. On dit, ah, ça a bougé, là. Hop, on a remis un bois, puis c'est tout. Faut l'eau être cinglée pour y aller. Mais c'est comme ça. On y pensait pas.
Il rêve de la mine toute la nuit, il en rêve, hein.
Je vois les bois qui cassent, vous entendez le bois qui claque, un bois comme ça qui pète. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez un plus court, puis vous mettez à côté. Vous faites pas attention. Mais il est dans le lit. Je pense.
Avec mon bras.
Ben, vous pourrez empêcher le toit de tomber. C'est un toit qu'il y a au-dessus, hein. C'est de la terre, mais c'est un toit. Hein. Alors, vous savez, et quand un coup, j'avais passé le conseil de révision. Et puis, j'ai fait la fête 3 jours. J'ai pas travaillé. Le jour que j'ai repris, Poirot me dit, si tu veux, tu vas rattraper tes jours. Alors, j'ai travaillé de nuit, et sur une quinzaine, j'ai rattrapé mes 3 jours. Mais, je vais vous dire que là, j'ai eu les poètes, hein. J'ai tout vide dans la mine. Vous voyez le fond là-bas, si un jour ça se met à péter d'un seul coup, vous êtes écrasé. C'est là, il va le rêver de ça. Alors un coup il me dit, ça a été. Il dit en tout cas, il dit, même si je loupe des jours, plus jamais j'irai de nuit. Oh là là, là, vous les chocottes. Et puis j'étais des piles, et des pilas, ce qu'on appelle ça. Mm-hmm. Hein. Alors il déclenchait, puis il fallait que j'allais chercher les bois pour pas les perdre. Alors péter, boum, boum, boum. Oui. Si j'ai pas fait dans mes culottes, j'étais tout juste, hein. Faut voir le travail, hein. Il faut le voir pour le croire. Ben, il y allait quand même. Il faut aller chercher le bois, là. J'en ai fait, hein. Parce que si on perdait un bout de bois, on avait une amende, hein. Il faut la retrouver. S'il y avait 15 bois, il faut la retrouver. Et le porion est passé, ou bien surveillant. Ah, il manque un.
Mais ça se faisait de nuit.
Toujours de nuit.
Ah oui, d'accord.
Mais pourquoi il faisait ça?
pour rattraper le bois puis avancer. Ben, vous savez, j'étais pas rigolo, hein. D'abord, il fallait être saoul pour faire ce qu'il faisait. Et le gars, il était saoul, qui travaillait avec moi. Ah ouais, ouais. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme à la guerre, hein. Quand vous êtes à la guerre, il faut y aller, ben, il faut y aller, hein. Ah ouais.
Là comme une montagne bien à plage, tes faux aux parties et nos paysages, qui nous périorent au pain, c'est que je t'éris, par un vieux jour ils seront évanouis, à mes pauvres gens il faudra bien s'y faire, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert, par mes pauvres gens il faudra bien s'y faire, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Quand j'ai au gosse, je grimpe au chutin d'eau, y'a vos pas de garde, vite un chevaux philo. Parmi Chéral, chez Aiguillage, chez Beau. Et tout le fourbi qui traîne au chuche-carreau. Et un grimpeau tout en haut dans la poussière. Y'a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Et un grimpeau tout en haut dans la poussière. Y'a disparu ma vieux Terry de Rimbert. T'es tôt un témoin de l'ouvrage et de nos pères. Qui ont ouvré tout le vie et sous le terre. Construire y a fallu plus de 120 ans, et ravi ça ne parle plus de ti, un rien de temps. T'es parti rogné par chez Bulldozer, je te dis adieu ma vieux Terry de Rimbert. T'es parti rogné par chez Bulldozer, je te dis adieu ma vieux Terry de Rimbert.
Bon, je m'appelle Thiénot Grimbach et je suis avocat. Pour refaire rapidement cette historique, je vous dirais que la Halde avait été saisie par M. Georges Carbonnier, qui avait regroupé un certain nombre de familles, 18 familles de mineurs, des survivants et des ayants droit, c'est-à-dire leurs épouses ou leurs enfants. Pour faire reconnaître le fait qu'ils avaient été licenciés pour fait de grève et que c'était une discrimination, il a saisi la Halde. Et il a voulu que ceux qui avaient été traités comme des chiens, alors qu'ils avaient tant donné, tant pendant la résistance qu'après, qu'ils puissent être reconnus comme ayant été ce qu'ils avaient été, c'est-à-dire des hommes debout, des hommes de lutte, des hommes de qualité, des familles qui ont été décimées, brisées, abîmées par cette affaire.
Voilà, au départ, donc, il y a Georges Carbonnier qui se lance dans cette démarche pour obtenir justice. Comme le dit Thiénot Grimbach, avocat fameux, mais il n'était pas seul dans cette affaire. Il n'est pas seul dans cette affaire, parce que vous avez compris que ça n'est pas terminé. Il y a quatre autres avocats qui sont financés par l'aide juridictionnelle, donc c'est vraiment de, on peut dire vraiment un engagement militant pour, vous avez compris, une cause superbe. Et le combat n'est pas terminé. Il y a eu une victoire d'étape très importante en mars dernier, mais le combat continue.
Ce qui s'est passé dans cette affaire de la grève de 48 est absolument incroyable. Il faut se rappeler que en 41, c'est la première grande grève patriotique contre l'occupant nazi. Elle se déroule dans les départements du Nord-Pas-de-Calais, soumis à l'administration militaire allemande. C'est pas Vichy, c'est pas l'occupation, c'est l'administration directe de l'armée allemande sous commandement militaire de Bruxelles qui est présent et qui fait régner la terreur nazie. Donc en 41, la grève se déclenche pour le pain et la liberté, sur tous les carreaux de mine. Et on fait intervenir l'armée, 3000 licenciés, 600 envoyés en camp de concentration, 50 survivants. Pour trouver ces 3000 personnes, on envoie des porions, des ingénieurs de production, des contremaîtres, avec des listes qui avaient été communiquées par les renseignements généraux à l'armée allemande. Et on fait l'appel de tous les militants de la CFTC, l'ancienne CFTC, le syndicat chrétien, et de la CGT, qui sont là sur place, et les membres du Parti communiste. tous les militants, les gens qui sont engagés dans les luttes. Et comme ça, on en fait remonter 3000, qu'on prend un par un dans le fond des mines, avec cette répression terrifiante. À la libération, le général de Gaulle et Maurice Thorez disent « Retroussez vos manches, il faut rattraper la production ». Et les mineurs sont là présents. En 2 ans, ils rattrapent la production de 1939. En 2 ans. Malgré toutes les destructions qu'il y a eu, ils font un effort considérable. Et ils le font parce qu'on leur a aussi restauré une part de dignité par le statut des mineurs, qui crée des relations du travail nouvelles avec des délégués mineurs, avec la présence du syndicat, avec la dignité retrouvée dans l'organisation de la production. Et le gouvernement d'alors, malheureusement dirigé aussi par des socialistes, décide de remettre en cause le statut des mineurs, qui était considéré comme la compensation des efforts et la reconnaissance de tout le travail qui avait été fait par ces mineurs pendant toutes ces années de lutte contre l'occupant, mais aussi de lutte pour la production. Donc la grève se redéclenche exactement comme en 1941, carreau des mines par carreau des mines, et du coup on leur envoie à l'armée. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'est né le mot d'ordre CRSSS. C'est les mineurs qui, eux, se rappelaient. Évidemment, ils n'ont pas inventé CRSSS par rapport au CRS. Ils l'ont inventé par rapport à leur précédente grève, parce qu'on a fait exactement la même chose. Ils sont descendus dans les carreaux des mines, avec les listes également, de nouveau les renseignements généraux, ont redonné les noms des militants, de ceux qui avaient été dans les FTP, de ceci, etc. Et de nouveau 3000 licenciés, et de nouveau la répression, et de nouveau des gens envoyés en prison pendant, etc., etc. Donc, voilà, c'est ça, cette histoire. Et Georges, lui, ce qu'il voulait, c'était que soit reconnu ça, qu'il s'était battu pour quelque chose et qu'on n'avait pas le droit de leur faire ce qu'on leur avait fait.
Actualité française, 28 octobre 1948.
Voici 3 semaines déjà que la production française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Et la décision prise par les grévistes de ne plus assurer les services de sécurité aggravait encore les effets de ce mouvement. Le gouvernement se voyait alors contraint de prendre des mesures d'ordre afin de faire assurer par des spécialistes requis l'entretien des mines, vital pour l'avenir de la production française. Malheureusement, de nombreux heurts se produisaient dans diverses régions entre grévistes et forces de police. À Béthune, une manifestation organisée devant la sous-préfecture menaçait de prendre un tour tragique.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes jeune, vous.
Oui.
Vous entrez dans la vie.
89 ans, il a, monsieur Norbert Gilmet, et il est un des protagonistes de cette histoire qui vient d'être évoquée par Thiano Grimbach, l'un des avocats, et il nous raconte vraiment de l'intérieur ce qu'il a vécu et ce qu'ont vécu ces milliers de mineurs en 1948.
Là, on se trouve à la mairie de Grenay, c'est ça ?
Oui, Grenay. Je ne peux pas recevoir chez moi. Ma femme est restée totalement traumatisée avec la répression que nous avons subie à la grève de 1948. Et on ne peut pas parler de ces événements sans qu'elle soit malade pour quelques jours. Puis elle se met en colère. Nous étions 3 camarades de la CGT qui avaient été licenciés ensemble de Mazingarbe, mais c'était les 3 secrétaires de la section communiste de Mazingarbe. Moi, j'étais employé, employé administratif. Donc, j'ai redemandé de retravailler en perception. On a embauché, mais on ne m'a jamais répondu. On a été expulsé du logement et ma femme était enceinte, puisque ma fille est née le 14 mars 1949. Alors, femme enceinte ou pas, et sans relogement, sans rien, du jour au lendemain.
Vous êtes allé où alors ?
Je suis allé chez ma belle-mère, dans un baraquement. Nous, on a eu des dettes. Moi, j'ai eu des dettes qui sont échelonnées, je ne sais pas, 10 années. Et je n'ai jamais terminé parce qu'il y a un commerçant qui m'a dit « Bon, on ne compte plus, je ne veux plus te voir. » Je ne sais plus ce que je lui devais à l'époque.
Vous aviez des dettes auprès des commerçants ?
Bien sûr. Comment voulez-vous vivre sans travail, sans salaire ? J'ai été embauché 2 fois comme terrassier. Et une demi-heure après, on me disait, les mines ne veulent pas qu'on t'embauche. Alors, je vais commencer le travail, une demi-heure après, hop. Ah, aussitôt qu'ils étaient prévenus par un garde ou par quelqu'un, par un ouvrier, force ouvrière, parfois. Ah oui. Alors, en 52, donc, c'est là que je suis entré à la tribune des mineurs. Je n'avais plus de droit dans mon lit. Et j'avais encore des dettes.
La grève, alors, elle a débuté quel jour, vous vous souvenez?
Le 4 octobre 1948. Sur 259 204 mineurs, 94% ont participé au vote. Et c'est à 89-70% qui se sont prononcés pour la grève.
Pratiquement 90% des mineurs étaient pour la grève.
Oui, oui. La grève est partie sur les revendications de salaire. Mais surtout, une des principales raisons, c'était les circulaires et décrets de Lacoste. Lacoste était ministre du Travail. On avait enlevé la gestion des maladies professionnelles et des accidents du travail aux sociétés de secours minières pour le remettre au patron. C'est le patron qui décidait si l'ouvrier était silicosé et s'il fallait le remonter à la surface. Voilà ce qu'il a fait Lacoste. Et ça, c'est resté. Et nous, c'est le 26 octobre, si mes souvenirs sont bons, que l'armée est arrivée ici. On a occupé tout le bassin minier. Alors, on n'avait plus le droit de réunion, rien du tout. Hein. Moi, j'allais, mais très peu de temps hein, aux manifestations. Parfois, parce que moi, j'étais tenu, j'avais été chargé pour m'occuper du recensement, du classement des vêtements, chaussures, sous-vêtements qui venaient de partout pour aider les mineurs. Moi, c'était ma tâche pendant la grève. Et ensuite aussi, l'envoi de nombreux enfants qui ont été accueillis dans la région parisienne pendant 2-3 mois. On ne peut pas l'oublier, ils ont pris nos enfants pour nous aider dans la région parisienne. Hein. Tous les pays qui ont envoyé des vivres, des vêtements, qui ont envoyé de l'argent, de la Pologne, de l'Angleterre, de l'Amérique, d'Afrique, d'Italie, Pietro Nenni, hein, le socialiste Pietro Nenni qui a condamné le gouvernement français aussi. Il y a eu tout ça, il y a eu la reine d'Angleterre qui a pris un enfant, la reine de Belgique, je m'excuse, je dis d'Angleterre, c'est de Belgique qui a pris un enfant. Les prêtres qui soutenaient les mineurs, les artistes, les footballeurs, au Racing Club de Lens, il y a eu un match au profit des grévistes partout en France. Les boxeurs, Humez, partout. On a eu un mouvement de solidarité, je crois, qui n'a jamais été égalé. Mais la presse, elle faisait le silence total. Il n'y avait que la presse communiste. Mais toute l'autre presse, elle faisait le silence total là-dessus. Elle soutenait le gouvernement, elle décrédibilisait les grévistes, oui. On a parlé de l'argent de l'étranger. Hein, les mineurs étaient soutenus par l'argent de l'étranger. Ils faisaient une grève insurrectionnelle payée par l'étranger. Oui, payée par Moscou pour créer une démocratie populaire comme dans l'Est. Hein. La grève insurrectionnelle, alors on était vraiment devenus des hors-la-loi. Hein.
Témoignage de Norbert Gilmet. On le retrouvera dans la suite de ces reportages de Charlotte Perry. Mais vous connaissez la maxime, si tant que les moutons n'auront pas d'historien, c'est les loups qui raconteront l'histoire. Pour l'instant, c'est les loups qui racontent l'histoire, c'est les loups qui poursuivent les mineurs devant la Cour de cassation, mais il y a d'autres historiens quand même, comme Pierre Outéric.
Donc vous Pierre Outéric, vous êtes historien ?
Depuis une trentaine d'années, je me suis intéressé à l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement populaire, et naturellement dans le Nord-Pas-de-Calais, à celle des mineurs. Les mineurs ne se sont jamais battus pour demander le changement de gouvernement. Les mineurs ne se battaient pas à l'époque pour demander que les communistes reviennent au gouvernement. Les mineurs ne se battaient pas pour demander que la France s'aligne sur les positions de l'Union soviétique. Voilà. Soyons clairs, que parmi un certain nombre de gens, il y avait ça dans la tête, c'est possible. Lorsque Le Coeur va demander...
Qui était Le Coeur ?
Le Coeur, Auguste Le Coeur, était un des hommes politiques les plus importants du Pas-de-Calais à l'époque, dirigeant du Parti communiste, président du syndicat des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, et il avait une très grosse influence ici dans la région lensoise. Il avait été maire de Lens jusqu'aux élections de 47. Il était député, donc c'était quelqu'un de très important. Et lorsque Auguste Le Coeur va demander aux ouvriers de l'usine Carbolux de Bruy-la-Bruxière d'arrêter la production,
Il sait très bien que s'ils arrêtent, l'usine est foutue. Ce type d'usine, lorsque vous arrêtiez, tous les fours étaient foutus. Et là, la réaction des travailleurs était très claire. Si on arrête, on n'a plus d'usine. C'était le prétexte choisi, présenté, excusez-moi, sur un plateau pour l'affrontement. Parce que c'est vrai, il y a eu la présence de l'armée. Il y a eu des mineurs qui ont été tués. Il y a eu plus de 3000 mineurs arrêtés. Il y a eu des mineurs qui ont perdu le boulot toute leur vie. Et il faut attendre aujourd'hui, ces jours-ci, pour qu'ils retrouvent leurs droits. Mais l'affrontement global n'a pas eu lieu. Je suis persuadé qu'au gouvernement, certains auraient aimé plus. Alors, il y a un enjeu politique majeur, c'est de briser, d'une façon ou d'une autre, ces forteresses ouvrières, et en particulier ce bassin minier, dans lequel le Parti communiste est implanté, dans lequel il y a un affrontement très dur depuis 1920 entre socialistes et communistes dans les villes minières, y compris jusqu'à aujourd'hui, et aussi de briser la Fédération des travailleurs du sous-sol, qui est un des syndicats majeurs de la CGT à l'époque. Je crois que fondamentalement, il y a cette idée de briser, d'en profiter pour briser pendant un certain temps le mouvement. Il faudra attendre 15 ans pour voir la communauté minière, la corporation des mineurs se relancer dans un grand mouvement d'envergure. Donc c'est pas rien, 15 ans. Et donc, cette répression va laisser des traces.
Devant un tel développement de la situation, le gouvernement arrêtait des mesures exceptionnelles pour rétablir la liberté du travail et assurer la sauvegarde de notre industrie.
Actualité française, 28 octobre 1948.
Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient. Saint-Étienne, cependant, les grévistes cégétistes, désavoués par leurs camarades des deux autres centrales syndicales, passaient à la contre-attaque et attaquaient les CRS à coups de pierres, de boulons et de barres de fer. Devant l'attitude très ferme du gouvernement, attitude qui peut cependant, suivant le développement de la situation, laisser place à la conciliation, certains mineurs semblaient désireux de reprendre le travail. Le spectacle des mines abandonnées ne doit plus être dans un proche avenir qu'une triste rétrospective. C'est pour la France, et pour la France tout entière, une question de vie ou de mort.
Demain, la suite, la grève des mineurs de 1948. Un reportage de Charlotte Perry. Merci à Daniel Amigo, Thiéno Grimbach, Maître Slim Benachour, merci à Norbert Gilmet et à Pierre Autéric. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et nous faire des commentaires. Vous pouvez faire la même chose sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Il y a peut-être parmi vous des témoins ou même des protagonistes de ces pages de notre histoire.